France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
En Tunisie, le processus démocratique peut-il être percuté, entravé par la mort hier du président de la République en exercice, Béji Caïd Essebsi, le jour même d'ailleurs de la célébration de l'abolition de la monarchie, figure majeure de la vie politique tunisienne depuis les années 60, grand artisan de la transition démocratique. Il a été premier ministre du gouvernement provisoire très vite après le départ de Ben Ali, et l'un de ces politiciens suffisamment habiles en des temps troublés et dangereux pour négocier la transition toujours en cours. Quel héritage laisse Béji Caïd Essebsi, et quelle Tunisie aujourd'hui va devoir faire face, sans lui, aux enjeux d'une transition toujours difficile. Avec nous pour tenter de répondre à toutes ces questions ce matin, Didier Billon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, et puis sur place à Tunis, par téléphone avec nous, Sophie Bessis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agrégée d'histoire et chercheuse associée à l'IRIS. Première question pour vous, Sophie Bessis, qui êtes sur place ce matin. Quelle est la tonalité des commentaires dans la presse tunisienne au lendemain de la mort de Béji Caïd Essebsi, dont on savait par ailleurs qu'il était malade depuis de nombreuses semaines maintenant?
Oui, de toute façon, le chef de l'État qui est décédé hier avait presque 93 ans et... Attendez.
On vous entend, Sophie Bessis.
Oui, oui. Le chef de l'État, donc décédé hier, avait presque 93 ans. Par ailleurs, il avait eu son premier grave malaise il y a à peu près un mois. Et donc, les Tunisiens, en un mois, ont eu le temps d'abord de s'habituer à l'éventualité de sa disparition prochaine, dans la mesure où il ne s'était pas vraiment remis de ce malaise. Et puis, il faut dire que les institutions ont bien fonctionné. Les institutions de la Deuxième République tunisienne, dans la mesure où, hier, institutionnellement parlant, tout était réglé. Le président de l'Assemblée nationale a été désigné président par intérim, chargé de préparer les prochaines élections. Il a prêté serment devant l'Assemblée nationale. Il s'est installé au palais présidentiel de Carthage. Et donc, les Tunisiens, d'une certaine façon, se sont sentis tout à fait rassurés. Les institutions fonctionnent, il n'y a pas eu de vacances du pouvoir, et la date des prochaines élections est désormais fixée.
Voilà, elle a été fixée très rapidement. Alors ça a fonctionné, vous nous dites, Sophie Bessis, très bien, Sophie Bessis, mais ils ont eu le temps de s'inquiéter quand même, les Tunisiens, depuis l'annonce effectivement des problèmes de santé de Béji Caïd Essebsi. Il y a un problème avec la Cour constitutionnelle qui n'est pas encore entièrement constituée. Il y a des nominations qui sont bloquées, notamment au Parlement.
Non, c'est pas entièrement constituée. La Cour constitutionnelle, c'est qu'elle n'existe pas encore. Voilà qu'elle est. C'est un problème tout à fait préoccupant. Effectivement, dans la mesure où la Cour constitutionnelle est un élément central du dispositif institutionnel de la Tunisie, et cette Cour constitutionnelle, ses membres devaient être désignés dans le délai d'un an au plus tard après la promulgation de la Constitution, laquelle a été promulguée en 2014, en janvier 2014. Et pour l'instant, du fait de dissensions politiques et du fait que les principales forces politiques du pays veulent pouvoir contrôler la Cour constitutionnelle par la nomination de magistrats à leur dévotion, cette Cour n'existe pas encore, ce qui est effectivement tout à fait dommageable. Cela dit, il existe une instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois depuis le début donc de cette législature. Cette instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois fait office de Cour constitutionnelle provisoire. Mais de toute façon, si la Cour constitutionnelle formellement doit constater la vacance du pouvoir, là pour le coup, le président Caïd Essebsi étant décédé hier, la vacance du pouvoir était évidente. Sur le reste, la Constitution est claire, c'est le président de l'Assemblée nationale en cas de vacance définitive du pouvoir. Donc il n'y a pas eu, malgré ce manque dont vous parlez à juste titre, il n'y a pas eu de flou constitutionnel concernant la succession. et l'intérim.
Alors on va revenir sur le processus qui est désormais en cours avec ces élections présidentielles qui ont été avancées d'ailleurs et qui auront lieu avant les élections législatives. On va revenir là-dessus. D'abord un petit mot peut-être Sophie Bessis de Béjikaï Desepsi qui était un homme de paradoxe, un homme de compromis aussi. Il y a le bon grain et l'ivrel concernant lui aussi pour reprendre le titre d'un ouvrage qu'il avait consacré à Bourguiba.
Oui, bon, la carrière de Béjir Kaïtsev, c'est une carrière tout à fait typique des hommes de sa génération, puisqu'il a fait ses études d'avocat en France, c'est un avocat, d'ailleurs, à chaque fois qu'il a rompu avec la vie politique, il est retourné à son cabinet d'avocat. Il rentre en Tunisie en 1952, après ses études en France, durant lesquelles il a adhéré au néo-destour, donc c'est un militant nationaliste dès sa plus prime jeunesse, et à partir de l'indépendance, il occupe des postes tout à fait importants dans le dispositif bourguibien. Au début des années 60, il est directeur de la Sûreté nationale, après quoi, à l'époque d'ailleurs, où la répression des premiers militants d'opposition commence à s'organiser. Ensuite, il est ministre de l'Intérieur. Ensuite, il a occupé des postes prestigieux de ministre de la Défense et de ministre des Affaires étrangères. Mais il a un parcours tout à fait intéressant dans la mesure où, au début des années 1970, avec un certain nombre de destouriens, est favorable à une démocratisation du régime, laquelle démocratisation du régime est empêchée par Bourguiba, qui n'en était pas du tout partisan. Donc il se retire de la vie politique et refait allégeance au chef de l'État d'alors, quelques années plus tard, où il est ministre des Affaires étrangères.
Alors il a su manœuvrer, et ça c'est peut-être le bon grain, Sophie Bessis, mais il lui a été reproché récemment par l'instance Vérité et Dignité d'avoir eu à connaître pas mal de choses un peu inavouables sous Bourguiba et sous Ben Ali, notamment des actes de torture auxquels il aurait même assisté d'après l'instance.
C'est très bien, je veux dire, les régimes de Bourguiba à l'encontre des youssefistes et à l'encontre de la gauche et de l'extrême gauche ont pratiqué systématiquement la torture, ainsi que le régime de Ben Ali
et il le
à
savait.
L'encontre des islamistes.
Et il le savait, il était là, Béjikaï Desepsi.
Non, alors si vous voulez, au temps de Bourguiba, il était là et il a eu poste extrêmement important, puisque je vous parlais de son poste de directeur de la Sûreté nationale, et ensuite de quoi de ministre de l'Intérieur. Sous Ben Ali, disons qu'on peut dédouaner Kaïtsepsi sous Ben Ali, il a été président de l'Assemblée nationale au moment où Ben Ali était encore considéré comme présentable, c'est-à-dire jusqu'en 1992. Et à partir de 1991-92, le régime de Ben Ali a choisi la voie dictatoriale la plus vulgaire. Entre 1987 et 1992, le premier mandat de Ben Ali, ce régime prédateur était encore pas tout à fait installé. Et puis après quoi, en 92, déjà Kaïtsepsi prend sa retraite. C'était déjà un homme assez âgé, il prend sa retraite. Il écrit effectivement Le Bon Grain et l'Ivraie, qui est à la fois une biographie de Bourguiba et une autobiographie d'une certaine façon. Et en fait, c'est la révolution qui a fait revenir Béjir Kaïtsepsi au premier plan quand il est nommé Premier ministre en février 2011, après donc l'insurrection qui a abattu la dictature de Ben Ali. Et c'est très intéressant d'ailleurs le fait que Béjir Kaïtsepsi ait été choisi à ce moment-là comme Premier ministre, parce que cela montre que toute la période Ben Ali a été incapable de produire une personnalité politique et qu'il a fallu recourir à un personnel politique du temps de Bourguiba pour tenter de remettre la machine en marche.
Et plutôt âgé. Didier Billon, sur ce point.
Oui, tout ce que nous explique Sophie Bessy, c'est tout à fait passionnant. Et au-delà des aspects d'ombre et de lumière du président décédé hier, ce qui est intéressant, c'est qu'il représente d'une certaine manière une tradition politique en Tunisie. L'existence d'institutions qui ont fonctionné, bien sûr, de façon très entravée à l'époque de Ben Ali, cela va de soi. Il n'empêche cette tradition politique, le rôle d'avant-garde politique qu'a pu jouer la Tunisie dans l'histoire des mondes arabes au cours des dernières décennies. Eh bien, on en on en a les conséquences aujourd'hui, puisque c'est le seul pays, nous y reviendrons probablement tout à l'heure, et au Maghreb dans la région, et d'une façon plus générale dans les mondes arabes, qui a réussi, tant bien que mal, mais plutôt bien que mal, à jouer sa transition démocratique grâce aux institutions qui fonctionnent. On nous l'a rappelé hier, il y a le décès du président, il n'y a pas vacance du pouvoir. Et ça, c'est une leçon à méditer. Donc Monsieur Essebsi peut-être est un de ceux qui symbolise cette continuité de l'État, même si dans sa carrière, il y a sûrement des zones d'ombre, mais qui n'en a pas. Et ça, ça me paraît très important si on se place dans un point de vue comparatiste avec les autres pays de la région.
Notre premier travail, c'est de restituer le prestige de l'État. Parce que le prestige de l'État s'est détérioré ces dernières années et ces derniers jours. Jusqu'à un point intolérable. Or, le prestige de l'État repose essentiellement sur le rétablissement de l'ordre.
Mehdi Khalid Essebsi, peu après son élection en tant que président de la République, on va faire un rapide bilan de son mandat de président qu'il n'a pas terminé. Il disait avoir été élu grâce au vote des femmes, notamment sur un plan sociétal. Sophie Bessis, vous diriez que il y a du résultat?
Écoutez, le bilan de Mehdi Khalid Essebsi que l'on peut commencer à faire est un bilan tout de même très mitigé. C'est un bilan mitigé dans la mesure où Mehdi Khalid Essebsi est un fin politicien, mais c'est un politicien, c'était un politicien. Il faut saluer l'homme, bien sûr, qui est décédé hier, c'est un politicien. Donc, que s'est-il passé? En 2012, au moment du gouvernement de la Troïka, c'est-à-dire le gouvernement de Narva et de ses deux supplétifs, Mehdi Khalid Essebsi crée un parti, Nid et Tounes, l'appel de la Tunisie en français, et un parti qui tout de suite, un parti un petit peu attrape-tout, dans la mesure où l'axe central de ce parti, c'était la lutte contre Narva et la tentative d'empêcher Narva d'arriver au pouvoir au cours des élections suivantes. Mehdi Khalid Essebsi remporte son pari, dans la mesure où il gagne les élections présidentielles et son parti gagne les élections législatives avec une majorité relative. Mehdi Khalid Essebsi, peut-être y était-il obligé, mais choisit la cohabitation avec le parti Ennahda après les élections, et l'on peut dire que jusqu'à il y a quelques mois, la vie politique tunisienne s'est caractérisée par une cogestion entre le parti Ennahda et la présidence de la République.
Mais c'est autant mis à son crédit que ça lui est reproché, Sophie Bessis.
Pardon?
C'est mis à son crédit autant que ça lui est reproché, cette cohabitation avec Ennahda, qui a été difficile et d'ailleurs qui est en train de s'achever. C'est quelque chose qui montre du positif autant que du négatif.
Écoutez, moi je ne le considère pas en termes de positif et de négatif. Je pense qu'en politique... Excusez-moi, je vous entends très mal.
Nous vous entendons, nous, de notre côté, nous vous entendons très bien, Sophie Bessis. Vous pouvez continuer.
Bon, je dis simplement qu'il ne convient pas de considérer. C'est-à-dire que, par rapport à ses électeurs, évidemment, Mehdi Khalid Essebsi n'a pas rempli la promesse qu'il avait faite à ses électeurs. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si vous voulez, peut-être la faute essentielle de Mehdi Khalid Essebsi a été par une politique familialiste, en essayant de placer son fils à la tête de son parti, de faire exploser son parti. Et de faire, en fait, après l'explosion de son parti, Ennahda est redevenue la première force parlementaire de la Tunisie. Par ailleurs, Mehdi Khalid Essebsi a une culture politique qui est évidemment, et ça c'est tout à fait normal vu son parcours, une culture politique présidentialiste. Or la constitution tunisienne est une constitution qui a instauré un régime parlementaire. Et le chef de l'État n'a cessé durant son mandat d'essayer de tirer le régime tunisien vers un régime présidentiel dont il avait la nostalgie, et il a déclaré à plusieurs reprises qu'il convenait de modifier la Constitution pour la représidentialiser. Et donc, en fait, le gouvernement n'a pas joué son rôle dans la Tunisie de Mehdi Khalid Essebsi, dans la mesure où le premier chef du gouvernement qui a été nommé avait un profil de grand commis de l'État. Le deuxième, un jeune technocrate au départ, qui est chef du gouvernement depuis 3 ans, a dû rompre avec le président de la République pour s'affirmer, et que l'on vit depuis plusieurs mois dans un affrontement entre la présidence de la République et le gouvernement, lequel affrontement est dirigé ou utilisé par le parti Ennahda, qui soutient à bout de bras l'actuel chef du gouvernement. Alors évidemment, les prochaines élections vont rebattre les cartes. La visibilité des prochaines élections est extrêmement faible, et les cartes vont être rebattues dans quel sens ? C'est la vraie question aujourd'hui.
On va effectivement détailler aussi sur ces questions-là. Un mot, Didier Billon, sur ce qui vient d'être dit, le bilan en demi-teinte de Brigitte Kaleidès-Séché.
Oui, enfin, ça, il est clair que dans une
notamment sur la moralisation.
Oui. Il est clair que dans une période de processus révolutionnaire, de mouvement de contestation, les partis au pouvoir en font la cruelle expérience et la difficulté de l'expérience. Et donc, on peut probablement reprocher à SEPSI de n'avoir pas appliqué l'entièreté de son programme, mais je connais beaucoup de responsables politiques qui, sous d'autres cieux, dans des périodes plus calmes, ne l'appliquent pas plus. Ceci étant, une remarque sur la question de l'islam politique incarné en Tunisie par Ennahda. Parce que, en réalité, et si là aussi nous nous plaçons dans une perspective comparatiste avec les autres pays de la région qui ont connu ces soubresauts révolutionnaires, ces processus révolutionnaires, la Tunisie reste le seul pays qui a réussi à intégrer les islamistes dans le jeu politique et en quelque sorte les banaliser. Et ça, je pense que c'est un acquis positif. Nous ne sommes pas obligés d'acquiescer au programme des islamistes, d'acquiescer à leurs valeurs, on peut les contester, mais le fait même qu'il soit mis en responsabilité réelle, à la différence de ce qui se passe au Maroc par exemple, et de ce point de vue très positif, et a permis de gérer cette transition démocratique, même si celle-ci, bien évidemment, est très, 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 très imparfaitement réussie. Enfin, dernière chose, peut-être faudra-t-il revenir ultérieurement sur la question sociale. Et là, on peut peut-être être plus critique sur la politique du gouvernement et du président.
Allons-y. Comment va la Tunisie aujourd'hui? Toujours 15% de chômage, des inégalités majeures, une façade maritime qui se développe alors que l'intérieur du pays est toujours en déshérence. Didier Billon, ça, c'est quelque chose qui va influer sur... Sophie Bessis nous disait que les élections à venir allaient être incertaine, ça va jouer. Les moteurs de la contestation de 2011 sont toujours là.
Il est clair que les deux moteurs principalement, et pour aller à l'essentiel et de façon un peu schématique, c'était les aspirations démocratiques. Celles-ci, en partie, bien sûr, en partie, sont satisfaites, bien qu'il y ait encore probablement beaucoup de progrès à réaliser. Il y a la question sociale. Et là, la question sociale, c'est le défi principal, parce qu'en réalité, les inégalités sociales, les inégalités régionales, non seulement ne se sont pas résorbées, mais plutôt accrues. Il faut dire au passage que la dite communauté internationale et notamment l'Union européenne qui ont fait beaucoup de promesses d'aide à la Tunisie, eh bien les Tunisiens l'attendent encore. Ça, c'est une position totalement irresponsable. D'autant, et nous ne l'avons pas encore abordé, que la Tunisie est quand même un pays qui a un voisin un peu turbulent, c'est la Libye. Et évidemment, c'est un facteur de déstabilisation objective. Il faut bien comprendre que ce petit pays du Maghreb affronte des défis colossaux qu'à mon avis, il a su relever, peut-être pas encore une fois parfaitement, mais qui le pourrait. Et de ce point de vue, je crois que c'est sur cette question fondamentale, la question sociale, les propositions qui seront faites, que les dés seront peut-être rebattus, comme l'indique Sophie Bessis, lors des prochaines échéances électorales.
Le nombre d'entrées de migrants en provenance de la Libye a doublé sur le premier semestre 2019, pour donner un indicateur. Mais sur la situation sociale, on va replacer tout à l'heure la Tunisie dans son contexte régional, mais sur la situation sociale à l'intérieur du pays, Sophie Bessis.
D'abord, je dois revenir sur, évidemment, il n'est pas question de critiquer l'intégration des partis de l'islam politique dans la vie politique tunisienne. Ça, évidemment, c'est un succès. Cela dit, maintenant, ce parti est un parti dominant qui a conquis une partie de l'État profond en Tunisie. Sur la question sociale, on ne peut pas... si vous voulez, la question sociale est une question complexe en Tunisie. Elle a des racines profonde. Et on peut dire que l'ascenseur social s'est arrêté dans ce pays à peu près au milieu des années 1990. Au début de l'indépendance, dans les deux premières décennies, dans les trois premières décennies de l'indépendance, il y avait eu une véritable méritocratie républicaine, même si l'on peut critiquer évidemment les choix économiques des deux régimes qui ont été en place. Donc à partir du milieu des années 90, cet ascenseur social s'est arrêté et la crise sociale est une des raisons majeures de la révolte contre la dictature de Ben Ali, qui était une dictature tout à fait prédatrice. On ne peut pas séparer la question sociale de la question économique en Tunisie, parce que les choix économiques du pays conditionnent également la question sociale. C'est-à-dire que le personnel politique de ce pays, dans son immense majorité, et le gouvernement, sont un personnel politique qui, d'abord, n'a pas de programme, c'est-à-dire que leurs échéances sont les échéances électorales immédiates de personnes depuis la révolution et depuis 2015, l'installation de Béji Caïd Sepsi et de ses deux gouvernements successifs, personne, ni dans la majorité, ni dans l'opposition, a émis de programme socio-économique de long terme.
Alors on va revenir sur
aucune pensée économique et sociale.
Sur toutes ces questions-là,
ça,
Sophie Bessis.
C'est quelque chose d'extrêmement grave.
Sophie Bessis, depuis Tunis, merci à vous. On vous retrouve dans un petit quart d'heure avec Didier Billon, qui est également avec nous pour évoquer la situation en Tunisie, situation sociale, situation sécuritaire et puis situation aussi évidemment régionale.
France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Et nous poursuivons notre discussion sur la Tunisie au lendemain de la mort du président Béji Caïd Essebsi. Quelle Tunisie demain? Quel processus politique maintenant va s'ouvrir avec une élection, avec deux élections, l'élection législative et également présidentielle. D'ailleurs, ce sera présidentielle et législative. Il y a eu une inversion du calendrier due hier à la mort du président Essebsi. Didier Billon est avec nous, directeur adjoint de l'IRIS, et Sophie Bessis, également agrégée d'histoire, chercheuse associée à l'IRIS, sur place à Tunis. Nous avons commencé à aborder la situation sécuritaire en Tunisie aujourd'hui. Ça fait partie aussi du bilan Essebsi qu'il faut dresser dans la perspective des élections à venir et de la continuité du processus démocratique. Sophie Bessis, on a vu revenir la violence, on a vu revenir les attentats au début de l'été. Après une courte accalmie, est-ce que il y a le risque que la Tunisie soit déstabilisée à nouveau avec la mort d'Essebsi?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que la mort du chef de l'État ait une incidence particulière sur la situation sécuritaire du pays. Ce qu'il faut signaler concernant cette situation sécuritaire, c'est que depuis les premiers attentats et les premières installations de maquis djihadistes, bon, à l'époque de la Troïka, ces maquis djihadistes avaient bénéficié d'une indulgence très très grande de la part du gouvernement d'alors, mais depuis les attentats, l'attentat du Bardo, l'attentat de Port Al-Kantaoui à Sousse, etc., il est évident que les services sécuritaires, les renseignements, la police, tout l'ensemble de l'appareil sécuritaire tunisien a fait des progrès et a réussi à gérer une situation sécuritaire volatile. Cela, effectivement, ne met pas la Tunisie à l'abri de tous les attentats, il faut bien le dire, ne met à l'abri aucun pays. De tous les attentats. Vous savez très bien qu'un attentat peut arriver en France, malheureusement, en Allemagne, dans n'importe quel pays européen. Et bien sûr, toutes les cellules dormantes du djihadisme tunisien n'ont pas été démantelées. Beaucoup ont été démantelées, les proportions sont très grandes, mais il reste bien sûr des cellules dormantes qui peuvent se réveiller à tout moment. Par ailleurs, et j'insisterai beaucoup sur ce point, c'est que la Tunisie, à son grand âme, est entouré par la Libye d'un côté, l'Algérie de l'autre, c'est-à-dire par deux pays qui sont des facteurs d'instabilité, à commencer bien entendu par la Libye, où vous savez que la guerre civile a repris depuis quelques mois, depuis l'offensive du général Haftar, et que cette situation de guerre civile fait que l'organisation État islamique peut retrouver en Libye, retrouve en Libye des bases qui servent à former des djihadistes de toute la région. Et là, il faut malheureusement déplorer le rôle de la France dans cette affaire, qui évidemment, en soutenant le général Haftar a rajouté des braises sur un feu qui couvait. La situation algérienne de l'autre côté peut être préoccupante dans la mesure où le formidable mouvement populaire algérien est une chose évidemment très positive pour le processus de transition démocratique au Maghreb, mais la politique du général Gaïd Salah, qui aujourd'hui fait office de chef de l'État, a été de démanteler les services de renseignement, comme vous le savez, dans la mesure où ces services étaient dirigés par ses adversaires, et que le démantèlement des services de renseignement algériens peut avoir des incidences, évidemment, sur les implantations djihadistes à la frontière algéro-tunisienne. Donc la situation n'est pas... Elle est sous contrôle, elle ne l'est jamais nulle part totalement.
Didier Billon, sur ce que vient de dire Sophie Bessis, la Tunisie engoncée entre la crise politique en Algérie et la situation chaotique en Libye. Revenons là-dessus, le maréchal Haftar arrivant au pouvoir à Tripoli serait une catastrophe pour la Tunisie et pour le processus démocratique en cours ? Ou c'est rien, plus compliqué que ça ?
Rien n'est jamais mécanique, évidemment, mais ce qui est tout à fait condamnable, c'est la reprise des combats et les illusions qu'a eu le maréchal Haftar, soutenu par quelques puissances régionales, dont son grand voisin égyptien, de pouvoir reprendre le pouvoir alors que la situation politique était en passe, difficilement certes, de se stabiliser. De ce point de vue, le maréchal Haftar a une responsabilité première. Et Sophie Bessis a parfaitement raison d'insister sur le fait que la politique de la France sur ce dossier est tout à fait condamnable et déplorable.
La France qui soutient le maréchal Haftar, hein, un peu le...
Oui, c'est clairement cela. Si le maréchal Haftar, mais je ne pense pas que ce soit la configuration qu'on puisse envisager, prenait le pouvoir, cela induirait probablement un regain, si je puis parler de regain, de violence, de recomposition des groupes djihadistes qui sont présents, organisés, actifs sur le territoire libyen. Pour ce qui concerne l'Algérie, nous sommes évidemment dans une configuration radicalement différente puisque nous avons assisté depuis l'hiver dernier, depuis le mois de février, à un mouvement de masse extraordinairement important qui a ébranlé le régime algérien et qui, semaine après semaine, a empêché les solutions qu'a voulu mettre en place l'armée algérienne pour tenter de stabiliser la situation. Ceci étant, aujourd'hui, si ces projets successifs, dont la réélection de Bouteflika, puis son éviction, etc., cela ne fait pas une politique. C'est-à-dire que ce mouvement des masses impétueux, massif, remarquable, en tant que tel, n'a pas été capable à ce jour de générer une solution politique. Ce n'est pas, de mon point de vue, une critique, c'est une réalité. Mais comme la plupart des partis qui existaient avant ce mouvement étaient des partis corrompus, qui avait maille à partir avec le régime, eh bien évidemment, aujourd'hui, les Algériens, ou la majorité d'entre eux, n'a aucune confiance dans ces anciens partis, d'autres diraient avec les partis de l'ancien monde. Sauf que pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles formes de regroupement politique. Et donc, de ce point de vue, nous sommes dans une situation d'impasse. Et le général qui fait office de chef d'État, Gaïd Salah, est dans une situation très instable. J'ai une petite nuance avec Sophie Bessis, c'est qu'effectivement, il y a eu des processus d'épuration au sein des services de renseignement, notamment des services de renseignement de l'armée, et c'est en réalité là que se situe le cœur du pouvoir. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a démantèlement des appareils sécuritaires. C'est qu'il y a toujours eu en Algérie des luttes de factions, de clans extrêmement vifs, mais dans un jeu d'ombre que personne ne contrôlait véritablement ou comprenait véritablement. Et bah, sous le produit de ce combat massif d'une partie de la population algérienne, tout cela a volé en éclats. Pour autant, les épurations ont touché évidemment ceux qui étaient majoritaire jusqu'alors, mais le général Gaïd Salah a lui-même ses réseaux au sein des services de renseignement, donc ceux-ci sont encore actifs. Et j'ose dire, quelque part, du point de vue de la sécurité régionale, et j'espère que je ne vais choquer personne, heureusement, parce que autant l'activité des services de renseignement contre les formes de regroupement politique de la population algérienne sont tout à fait condamnables, autant nous sommes, et c'est une troisième dimension du tableau régional que je voudrais apporter, c'est la situation dans la bande sahélienne, qui est infiniment préoccupante aussi, avec l'implantation, la pérennisation des groupes djihadistes. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas se cacher les yeux, les services de renseignement algériens peuvent avoir un rôle positif dans la lutte contre les services de renseignement. Donc il n'est pas souhaitable qu'il y ait un démantèlement total de ces services de renseignement. Donc au total, si on prend un peu de recul, la situation tunisienne, indépendamment de la résurgence des attentats depuis le début de l'été, c'est évidemment très 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 inquiétant. C'est cela, la situation tunisienne, pardonnez-moi, tient du miracle. C'est-à-dire que ce petit pays, entouré par des pays qui sont totalement déstabilisés pour des raisons différentes, mais où la menace djihadiste, la menace terroriste est très présente, eh bien ce pays qui malgré tout y résiste, cela tient du miracle et du miracle positif. Alors comme je ne suis pas très croyant, cela relève surtout d'un processus politique qui est assez maîtrisé, avec ses défauts, nous les avons évoqués tout à l'heure, mais qui quand même marque là aussi une forme de maturité de la société tunisienne qui est à saluer. Et tant mieux pour la région.
Sophie Bessis, sur la maturité dont vient de parler Didier Billon et sur le miracle tunisien, comment vous analysez la situation dans la perspective de ces élections qui arrivent ?
Écoutez, moi je n'irai pas jusqu'à parler de miracle tunisien, dans la mesure où, comme vous le rappeliez tout à l'heure et que je le rappelais moi-même, la situation économique et sociale est assez désastreuse et extrêmement préoccupante en tout cas, et que depuis la mise en route du processus tout à fait bienvenu, évidemment, de démocratisation du pays, il n'y a pas eu de politique économique, il n'y a pas eu de politique sociale, et la situation se dégrade, et se dégrade d'autant plus, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant, peut-être la chose la plus désastreuse aujourd'hui, c'est que plus de 50% de l'économie est considérée ludiquement comme informel. Alors il y a évidemment un informel populaire, mais la Tunisie est gangrénée aujourd'hui par la corruption, par des groupes mafieux qui ont des connexions transnationales et qui dit contrebande, dit aujourd'hui dans la région aussi contrebande d'armes, contrebande de drogue. Donc il y a des mafias qui ont des tentacules jusqu'au cœur du pouvoir tunisien. Et cela, le pouvoir tunisien post-révolutionnaire a été incapable de restaurer l'État. Je ne dirais pas qu'il y a un État failli en Tunisie, mais il y a un État défaillant incontestablement. Et l'existence, cette défaillance de l'État affaiblissent le pays et peuvent affaiblir le processus de transition démocratique. Et c'est dans ce cadre-là que je parlerai de ce processus de transition. Cela dit, effectivement, il y a dans la société tunisienne des défenses immunitaires, des contre-feux, des initiatives, un dynamisme qui sont tout à fait louables et qui ont permis à la Tunisie depuis 2011 d'éviter le pire. Rappelons que quand le parti islamiste voulait imposer une constitution extrêmement régressive par rapport aux acquis de la Tunisie depuis l'indépendance, la constitution de 2013, eh bien c'est la population, c'est la société civile, ce sont les associations qui se sont levées, qui ont occupé la rue pendant un mois, et le parti Ennahda a été obligé de retirer son projet de constitution et de souscrire à une constitution de compromis entre les différentes forces politiques et idéologiques du pays. Donc il y a une société civile. Et cette société civile, aujourd'hui, est en train de se former dans les nouvelles municipalités élues aux municipales de 2018, dans les très nombreuses associations qui maillent le pays, et elle pallie les carences de l'État, que ce soit, enfin, elle pallie en partie, évidemment, selon leurs moyens, les carences de l'État, que ce soit en matière sociale, que ce soit en matière environnementale. La Tunisie est dans un état de détresse environnementale dont les autorités ne font aucun cas, etc., etc. Donc effectivement, il y a cette maturité.
Revenons Sophie Bessis, sur la scène,
terminer. C'est que, n'oublions pas, et c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant, qu'une partie de la population tunisienne ne se sent pas concernée par la vie politique du pays. Le taux d'abstention en Tunisie est extrêmement important, Et aux dernières élections municipales, il a dépassé largement les 50%.
Alors, je voulais vous poser la question justement, Sophie Bessis. Est-ce qu'il y a une crise politique qui couve ou est-ce qu'il y a un risque de crise politique dans l'héritage de Béjicaïd Essebsi? Il y a ce projet de loi ou du moins ces amendements à la loi électorale qui font débat, des amendements qui prévoient d'exclure un certain nombre de candidats. Alors, ce sont les favoris des sondages. Pour l'instant, ces amendements n'ont pas été promulgués. Est-ce qu'il y a un risque là très politique dans le processus à venir et dans les prochaines semaines? Sophie Bessis.
Non, pas du tout. Dans la mesure où, d'abord, ces amendements, l'ex-chef de l'État, le chef de l'État décédé hier, avait refusé de les promulguer, au mépris d'ailleurs des dispositions constitutionnelles, il faut bien le dire. Donc ces amendements sont maintenant, appartiennent au passé. Le président de la République, par intérim, je pense, ne remettra pas sur le tapis cette question des amendements. Cette question des amendements est très controversée en Tunisie, en fait, dans la mesure où, effectivement, ça a été des amendements de circonstance et les deux principales forces politiques à l'Assemblée nationale les ont votés pour empêcher des candidatures. Mais ce sont aussi des amendements destinés à moraliser la vie politique, ce qui n'est tout de même pas totalement négligeable, parce que la vie politique est, disons, bien éloigné en Tunisie, malheureusement.
Didier Billon, sur cette question-là.
C'est de l'argent, et vous me direz c'est universel, mais enfin, en Tunisie, aujourd'hui, c'est une vraie question.
Didier Billon, on va être obligé d'arrêter ce film.
Pour conclure, puisque les minutes passent, de replacer la situation tunisienne dans son contexte régional et dans ces mouvements de révolte qui ont lieu en 2010-2011. Beaucoup ont considéré que ces mouvements étaient terminés. Je ne le crois pas. La parenthèse politique, la séquence politique qui a été ouverte dans les mondes arabes en 2010-2011 n'est pas refermée. La situation en Algérie, la situation au Soudan le prouve. Et je pense qu'en Tunisie, eh bien, sous des formes appropriées, bien évidemment, des processus de remobilisation citoyenne populaire, liés notamment à la situation économique et sociale, ne manqueront pas de ressurgir. Donc, au-delà de toutes les contradictions incontestablement soulignées dans cette émission, je crois qu'on peut quand même avoir quelque optimisme mesuré, de façon maîtrisée, sur les évolutions de la société tunisienne que ses voisins ne connaissent malheureusement pas.
Merci Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS. Merci aussi à Sophie Bessis qui était au téléphone avec nous en direct ce matin depuis Tunis, chercheuse associée à l'IRIS et spécialiste de la Tunisie agrégée d'histoire.